7. L'offre s'était bel et bien révélée un attrape-nigo, mais Brotigan eut l'honnêteté d'avouer sur sa cassette qu'il y serait sans doute allé de toute manière, même s'il l'avait su. « Parce que le talent n'est pas fait pour être tu. Le talent ne sait pas se taire, » expliqua-t-il. « Que ce soit un talent de perceur de coffre-fort, de médium ou de prodige du calcul mental à 10 chiffres, il supplie qu'on se serve de lui. Il ne se tait jamais. Il vous réveille au milieu de la nuit, alors que vous êtes épuisé, en hurlant « Sers-toi de moi !» « Sers-toi de moi, sers-toi de moi. J'en ai assez de rester assis là. Utilise-moi, tête de con, utilise-moi. » Jake éclata de rire, d'un rire bruyant de préadolescent. Il se couvrit la bouche de la main, mais ne put s'empêcher de continuer à glousser. Othé leva vers lui ses yeux noirs dans lesquels flottait un anneau d'or avec son rictus diabolique sur les lèvres. Et là, dans cette pièce remplie de tutus roses à fanfreluche, avec son feutre en arrière sur sa coupe en brosse, Armitage avait demandé à Ted s'il avait déjà entendu parler des « militaires du génie maritime du sud des États-Unis ». Quand Ted avait répondu par la négative, Armitage lui avait raconté qu'un consortium de riches hommes d'affaires sud-américains, essentiellement brésiliens, avait engagé un groupe de camionneurs, de maçons et de voyous américains en 1946. Plus de 100 en tout. C'étaient eux, les American Seabees. Le consortium les employait tous pour une période de 4 ans à différents niveaux de salaire, mais toujours très généreusement, au point que c'en était presque embarrassant. Un conducteur de bulldozer pouvait se retrouver avec un contrat annuel de 20 000 $, par exemple, ce qui à l'époque était une aubaine. Mais ce n'était pas tout. Il y avait la prime équivalent à 1 an de salaire, soit un total de 100 000 $. Si, bien sûr, le type acceptait une seule et unique condition, peu courante. Y aller, bosser, et ne pas revenir avant 4 ans, sauf si le boulot était terminé. 2 jours de repos par semaine, comme en Amérique, et des congés payés chaque année, comme en Amérique, mais dans la Pampa. Impossible de retourner en Amérique du Nord, ou même à Rio, avant la fin du contrat de 4 ans. En cas de décès en Amérique du Sud, on était enterré là-bas. Personne ne paierait le transport du cadavre jusqu'à Perpète-les-Oies. Mais on recevait 50 000 $ d'entrée et 60 jours pour les dépenser, les mettre de côté, les investir ou les claquer comme on voulait. Si on choisissait l'investissement, ces 50 000 pouvaient se convertir en 75 000 quand on émergeait de la jungle avec un bronzage intégral, la panoplie de muscles tout nouveaux, tout beaux et assez d'histoires à raconter pour tenir un siècle. Et bien sûr, une fois dehors, on avait tout ce que les Anglais aimaient appeler « l'autre moitié » pour couronner le tout. C'était comme ça que ça se passait, avait dit Armitage sans détour. Le bas de l'échelle s'en tirait avec 250 000 et le haut avec 250 000.
Ce qui paraissait incroyable, commenta la voix de Ted dans le volensac. Forcément, fichtre, ce n'est que bien plus tard que j'ai mesuré combien on était bon marché pour eux, même à ce prix-là. Dinky est particulièrement éloquent sur le sujet de leur avarice. Leur avarice, en l'occurrence, étant celle de tous les bureaucrates du roi. Il dit que le roi cramoisi essaie de précipiter la fin de toute création sans dépasser son budget. Et bien sûr, il a raison. Mais je pense que même Dinky se rend compte, jamais il ne l'admettra, bien entendu, que si on offre trop à un homme, il refuse tout bonnement de le croire. Ou alors, selon son degré d'imagination, beaucoup de télépathes et de précogues n'ont pratiquement pas d'imagination. Il sera dans l'incapacité de le croire. Dans notre cas, la période d'apprentissage devait durer 6 ans, avec renouvellement possible. Et Armitage, je voulais une réponse immédiate. Il existe peu de techniques aussi efficaces, mesdames et messieurs, que de tournebouler l'esprit de votre cible, de l'appâter avec une grosse somme, avant de le sidérer avec le coup de grâce. Et je me suis retrouvé sidéré comme il faut, vous pouvez me croire. Aussi ai-je accepté immédiatement. Armitage m'a annoncé que mon quart de million m'attendrait à la Siemens Bank de San Francisco dans l'après-midi même, et que je pourrais le retirer dès que j'y serais. Je lui ai demandé s'il fallait que je signe un contrat. Il a tendu la main, de la taille d'un jambonneau, en me disant que c'était ça notre contrat. J'ai voulu savoir où j'allais et ce que j'y ferais. Toutes ces questions que j'aurais dû poser dès le début, vous en conviendrez. Mais j'étais tellement abasourdi que ça ne m'a même pas traversé l'esprit. De plus, j'étais presque certain de le savoir. Je croyais que j'allais travailler pour le gouvernement, le genre « guerre froide ». La filière télépathie de la CIA ou du FBI, installée sur une île du Pacifique. Je me rappelle avoir pensé que ça ferait un sacré scénario pour une pièce radiophonique. Armitage m'a répondu « Vous voyagerez loin, Ted, mais vous aurez aussi du travail tout près. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, en vous recommandant de ne pas dire un mot de cet arrangement pendant les 8 semaines qui précéderont votre... traversée. Rappelez-vous qu'une parole peut ruiner tous les espoirs. Au risque de vous rendre paranoïaque, je vous dirai de partir du principe que vous êtes surveillé. »
Évidemment que j'étais surveillé. Plus tard... Trop tard, en quelque sorte. Je me suis repassé le film de mes 2 mois suivants à San Francisco, et je me suis rendu compte que les cantois m'épiaient à chaque seconde. Les ignobles.
8.
Armitage et 2 autres humes nous ont retrouvés à l'entrée de l'hôtel Mark Hopkins,
poursuivit la voix du magnétophone.
Je me rappelle la date avec une clarté parfaite. C'était le jour d'Halloween en 1955, à 5 heures de l'après-midi. Moi, Jace McGovern, Dave Itaway, Dick, je ne me souviens pas de son nom de famille. Il est mort environ 6 mois plus tard. Huma a dit que c'était de pneumonie, et le reste des Kikans a corroboré son histoire. Et Kikan signifie en quelque sorte « Jean de merde » ou « Maire de Folken », au cas où ça vous intéresserait. Mais c'était un suicide, et moi au moins je le savais. Quant aux autres, eh bien, vous vous rappelez, docteur numéro 2, les autres étaient et sont comme lui. « Ne me dis pas ce que je ne veux pas savoir, Sai. Ne viens pas saccager ma vision du monde. » Quoi qu'il en soit, la dernière, c'était Tania Leeds, costaud de cette petite.
Une pause, un déclic, puis la voix de Ted reprit, paraissant un peu plus claire. La 3e cassette touchait presque à sa fin.
« Il doit vraiment avoir flambé le reste de l'histoire, » pensa Eddie,
et il constata que cette idée le décevait. Une chose qu'on pouvait déjà dire de Ted, c'est qu'il était un sacré fileur de récits.
Armitage et ses collègues ont débarqué dans un Breakford, ce qu'on appelait un Woody, en ces jours heureux. Ils nous ont emmenés à l'intérieur des terres, jusqu'à une ville du nom de Santa Mira. La rue principale était pavée, les autres en terre battue. Je me rappelle qu'il y avait des tas de dériques qui ressemblaient un peu à de grosses mantes religieuses. Sauf qu'alors il faisait déjà sombre et que ce n'était que des formes se découpant sur fond de ciel. Je m'attendais à ce qu'on arrive dans une gare ferroviaire ou routière avec un bus portant un panonceau « comptable » derrière le pare-brise. Au lieu de quoi nous avons débarqué dans cet entrepôt vide avec son enseigne « Embarquement
chargement Santa Mira, qui pendait de guingois à l'entrée, et une pensée m'a traversé l'esprit, clair comme le jour, envoyé par Dick je ne sais plus quoi. « Ils vont nous tuer, » pensait-il. « Ils nous ont amenés ici pour nous tuer et nous voler notre truc. » Quand on n'est pas télépathe, on ne peut pas mesurer à quel point une chose de ce genre est effrayante. Cette certitude, elle vous envahit la tête. J'ai vu Dave Itaoué pâlir, et bien que Tania n'ait pas émis un seul son, elle était costaude, cette petite, je vous l'ai dit. Il faisait assez clair dans la voiture pour voir qu'elle avait les larmes aux yeux. Je me suis penché vers elle, j'ai pris les mains de Dick dans les miennes, et je les ai serrées fort quand il a essayé de se libérer. Je lui ai envoyé la pensée suivante. Ils ne nous ont pas donné un quart de million à chacun, dont la majeure partie est toujours planquée en sécurité à la Siemens Bank, tout ça pour nous entraîner dans le maquis, histoire de nous piquer nos montres. Et Jace m'a répondu en pensée, « Je n'ai même pas de montre. J'ai mis la mienne au clou il y a 2 ans à Albuquerque, et le temps que je songe à en racheter une, vers minuit hier, tous les magasins étaient fermés et j'étais trop bourré pour descendre de mon tabouret de bar de toute façon. Ça nous a détendus et on s'est tous mis à rire. Armitage nous a demandé ce qui nous mettait tellement en joie, et ça nous a encore plus détendus, parce qu'on avait quelque chose que eux n'avaient pas. On pouvait communiquer d'une manière qui leur était inaccessible. Je lui ai dit « rien du tout », et j'ai serré un petit coup les mains de Dick. Ça a fait l'affaire. Je l'ai facilité, je suppose. C'était mon coup d'essai. Le premier d'une longue série. C'est une des raisons pour lesquelles je suis tellement fatigué. Tout ce facilitage, ça vous épuise un homme. Armitage et ses sbires nous ont fait entrer. L'endroit était déserté, mais au bout il y avait une porte avec 3 mots écrits à la craie sur le panneau, entourés de lune et d'étoiles. « Garde tonne foudre », ça disait. Sauf que, eh bien, il n'y avait pas de gare, ni rail, ni bus, ni route, à part celle qu'on avait empruntée pour venir jusqu'ici. Il y avait des fenêtres de part et d'autre de la porte, et rien de l'autre côté du bâtiment, à part 2 ou 3 bâtiments plus petits, des hangars abandonnés dont l'un n'était plus qu'une coquille calcinée, et de la brousse jonchée de déchets. Dave Itaoué a dit « Qu'est-ce qu'on va faire de l'autre côté ?» Et l'un des types a répondu « Vous verrez bien. » Et ça oui, on a vu. « Honneur aux dames !» a dit Armitage en ouvrant la porte. Derrière, il faisait noir, mais d'un noir différent, d'un noir plus noir. Si vous avez déjà vu tonne foudre de nuit, vous voyez de quoi je parle. Et les sons étaient différents, eux aussi. Et là, ce bon vieux Dick a eu comme des regrets, il a voulu faire demi-tour. L'un des types a dégainé une arme. Et je n'oublierai jamais ce qu'Armitage a dit. Parce qu'il avait une voix gentille. Trop tard pour changer d'avis. Maintenant, il faut aller de l'avant. Et je crois que dès cet instant, j'ai su que cette histoire de contrat de 6 ans, renouvelable à volonté, c'était ce que mon ami Bobby Garfield et son ami Sully John auraient appelé du baratin de baltringue. Non pas que nous puissions lire dans leurs pensées, ils portaient tous des chapeaux, vous voyez. On ne voyait jamais un ignoble, ou une ignoble d'ailleurs, sans un chapeau. Ceux de ces hommes ressemblaient à de bons vieux feutres mous, du genre que portaient la plupart des types à l'époque. Mais ce n'étaient pas des couvre-chefs ordinaires. C'étaient des bonnets de pensée. À part que bonnet anti-pensée serait plus adéquat ici. Ils étouffent les pensées de ceux qui les portent. Si on essaie de proguer quelqu'un qui en porte un, proguer, c'est le terme qu'emploie Dinky pour dire lire dans les pensées. On n'obtient qu'un bourdonnement grouillant de murmures. Très désagréable, un peu comme le carillon du Vahadash. Si vous l'avez déjà entendu, vous imaginez, ça décourage les efforts, et l'effort est bien la dernière chose qui intéresse la plupart des télépathes de l'Algule. Ce qui intéresse le plus les briseurs, mesdames et messieurs, c'est de ne pas faire de vagues, et que rien ne dépasse. Et vous n'en mesurerez toute la portée, toute la monstruosité, qu'en reculant d'un pas et en regardant vers l'avenir. Encore une chose qui passionne très peu les briseurs, l'avenir. On entend souvent un proverbe, un petit poème circuler sur le campus, ou bien on le lit tracé à la craie sur les murs. Profite de la balade, mets à fond le ventilo. Travaille bien ton bronzage, t'as rien à perdre, mon coco. C'est beaucoup plus fort que « on se calme ». Les implications de ces petits vers de Mirliton sont fort déplaisantes. Je ne sais pas si vous en avez bien conscience. Et d'y penser en avoir bien conscience pour sa part. Et il lui traversa l'esprit que son frère Henry aurait fait un briseur absolument merveilleux. Si tant est qu'il ait pu emporter son héroïne et ses albums de Creedence Clearwater Revival, bien sûr.
Ted marqua un temps d'arrêt plus long, puis il eut un petit rire contrit.
Je crois que le moment est venu d'abréger un peu les choses. On a passé la porte, pour résumer. Si vous l'avez fait vous-même, vous savez que ça peut être très désagréable si la porte n'est pas en parfait état de marche. Et la porte entre Santa Mira en Californie et Tonnefoudre était en meilleur état qu'un certain nombre que j'ai eu l'occasion d'emprunter depuis. Pendant un moment, il n'y a rien eu d'autre que les ténèbres et les hurlements de ce que les Taïnes appellent les chiens du désert. Puis des lumières se sont brusquement allumées et on a vu ces choses avec des têtes d'oiseaux et de fouines, et même une avec une tête de taureau, avec les cornes et tout. Jace s'est mis à crier et moi aussi. Dave Itaway a fait volte-face et essayé de s'enfuir, mais Armitage l'a alpagué. Et même, où aurait-il pu aller? Repasser la porte? Elle s'était refermée, et pour autant que je sache, elle est à sens unique. La seule d'entre nous à ne pas avoir prononcé une syllabe, c'est Anya. Et quand elle a levé les yeux vers moi, ce que j'ai vu dans ses yeux et lu dans ses pensées, c'est du soulagement. Parce qu'on savait, voyez-vous. Nous n'avions pas les réponses à toutes les questions, mais aux deux plus importantes, si. Où étions-nous? Dans un autre monde. Quand allions-nous rentrer? Jamais de notre vivant. Notre argent allait rester à la Siemens Bank de San Francisco jusqu'à ce qu'il y en ait des millions, et personne pour les dépenser. Jamais. Nous étions là sur le long terme. Il y avait un bus avec un chauffeur du nom de Phil. « Appelez-moi Phil le Cador, je me fais vieux et alors, mais rassurez-vous, je vais pas vous mettre dans le décor », a-t-il dit. Il avait une odeur de court-circuit et il faisait plein de petits clics discordants sous sa carrosserie. Ce bon vieux Phil est mort à présent, balancé dans la décharge des trains et des robots avec Dieu seul sait combien d'autres pauvres bougres. Mais ils ont largement assez de petites mains mécaniques pour les aider à finir ce qu'ils ont commencé, j'en suis sûr. Dick s'est évanoui dès qu'on est ressorti côté Tonnefoudre, mais le temps de voir apparaître les lumières du complexe, il était revenu à lui. Il avait la tête posée sur les genoux de Tania, et je me rappelle le regard de reconnaissance qu'il lui a lancé. C'est drôle, ce que la mémoire décide de se rappeler, n'est-ce pas? Ils nous ont fait passer un contrôle au portail, nous ont assigné nos numéros de dortoir, puis d'appartement, ont veillé à ce qu'on ait à manger, et c'était un sacré repas, vous pouvez me croire, le premier d'une longue série. Le lendemain, nous sommes allés travailler. Et si on accepte ma petite escapade dans le Connecticut, nous n'avons jamais cessé de travailler depuis.
Il marqua une nouvelle pause.
Dieu nous vienne en aide, nous n'avons jamais cessé de travailler depuis lors. Et Dieu nous pardonne, la plupart d'entre nous sont heureux. Parce que la seule chose que demande le talent, c'est qu'on s'en serve.
9. Il leur raconte ses premières gardes au bureau. Le moment où il a compris, pas au fur et à mesure, mais au contraire presque immédiatement, qu'il n'allait pas traquer des espions ou lire dans les pensées de scientifiques russes ou ce genre de foutaise de l'espace, comme dirait Dinky. Dinky n'était pas là dès le début, à la différence de Chimie. Non, ce qu'ils vont devoir faire, c'est briser quelque chose. Il le sent, pas seulement dans le ciel d'Algul Siento, mais partout autour d'eux, jusque sous leurs pieds. Pourtant, il est assez satisfait. La nourriture est bonne, et bien que ses appétits sexuels se soient calmés au fil des ans, il ne dit pas non quand il s'agit de s'envoyer en l'air, ne serait-ce que pour se rappeler régulièrement que le simusex n'est rien d'autre que de la masturbation avec accessoires. Mais pour s'être envoyé en l'air de temps à autre avec une pute, comme beaucoup d'hommes sur la route, il peut aussi témoigner que ce sexe-là non plus n'est pas très éloigné de la masturbation. Vous la lui mettez aussi fort que vous le pouvez. Vous suez comme un cheval et elle répète « Oh, bébé, bébé, bébé !» en se demandant en fait si elle devrait refaire le plein de la voiture ou quel jour son groupe préféré passe au rouge et blanc déjà. Comme pour la plupart des choses de la vie, il faut avoir recours à son imagination. Et c'est une chose que Ted sait faire. Il est bon pour le vieux truc de la visualisation, merci beaucoup. Il aime bien avoir un toit au-dessus de la tête. Il aime bien la compagnie. Les gardes restent des gardes, d'accord, mais il les croit quand ils disent que leur boulot consiste tout autant à empêcher le mal d'entrer qu'à empêcher les briseurs de sortir. Il s'entend bien avec la plupart de ses copensionnaires aussi. Et au bout d'un an ou deux, il se rend compte que ses copensionnaires ont besoin de lui de manière étrange. Il sait les réconforter quand il voit tout en rouge. Il sait apaiser leur accès de vague à l'âme et de mal du pays. Il lui suffit d'une petite heure de conversation à mi-voix, et c'est une bonne chose à l'évidence. Peut-être que tout est bien, finalement. En tout cas, c'est ce qu'il ressent. Avoir le mal du pays, c'est humain. Mais briser, c'est divin. Il essaie d'expliquer ça à Roland et à son tête, mais le mieux qu'il réussisse à faire, c'est dire que c'est un peu comme réussir à gratter ce point dans le dos que vous n'arrivez pas à atteindre et qui vous rend dingue, à vous démanger doucement mais sûrement. Il aime aller au bureau. Ils aiment tous ça. Il aime ce qu'il ressent, assis là, dans le parfum du beau bois et du beau cuir, à chercher, chercher, jusqu'au moment où, tout à coup, « Ah ! Nous y voilà !» On a alpagué quelque chose et on se balance comme un singe au bout d'une branche. On brise, bébé est brisé. C'est divin. Dinky avait dit un jour que le bureau était le seul endroit au monde où il se sentait en contact avec lui-même, et que c'était pour ça qu'il voulait qu'il soit fermé.
brûlé même, si possible. Parce que je sais de quel genre de conneries je suis capable quand je suis en contact avec moi-même, avait-il dit à Ted. Quand je tombe vraiment dans le panneau, mon vieux. Et Ted savait exactement de quoi il parlait. Parce que, au bureau, c'était toujours trop beau pour être vrai. On s'asseyait, éventuellement on prenait un magazine, on regardait les photos de mannequins et les pubs pour la margarine, les photos de stars de cinéma et de belles voitures, et on sentait son esprit s'élever. Le rayon était tout autour. C'était comme se trouver au milieu d'un vaste couloir de force, mais l'espoir s'élevait toujours vers le toit. Et quand il arrivait là-haut, il tombait toujours dans ce bon vieux panneau. Le panneau coulissant. Peut-être qu'autrefois, juste après que le prime s'était retiré, quand l'écho de la voix de Gann résonnait encore dans les chambres du macrovert, les rayons étaient lisses et polis. Mais ce temps-là était révolu. À présent, la voix de l'ours et de la tortue est cabossée et érodée, remplie d'anses et de cols et de baies et de crevasses, jalonnée de creux dans lesquels on peut glisser les doigts pour assurer sa prise. Et parfois on se hisse, et parfois on se coule à l'intérieur comme une goutte d'acide qui pourrait penser et qui creuserait sa voix. Et toutes ces sensations procurent un plaisir intense, presque sexuel. Et pour Ted, il y a autre chose. Quelque chose en plus, bien qu'il ne sache pas qu'il est le seul à l'avoir, jusqu'à ce que Trampas le lui dise. Trampas n'a pas l'intention de lui dire quoi que ce soit, mais il a ce sale eczéma, voyez-vous, alors ça change tout. Difficile de croire que c'est une maladie du cuir chevelu qui permettra peut-être de sauver la tour sombre, mais l'idée n'est pas totalement tirée par les cheveux. Même pas du tout tiré par les cheveux. 10.
Il y a environ 180 personnes employées à plein temps à Algul Ciento, récapitula Ted. Je ne suis pas du genre à dire aux gens comment faire leur travail, mais je vous conseille de prendre de quoi noter, ou au moins d'ouvrir grand les oreilles. En gros, c'est 60 par garde de 8 heures, et qui se divise en 3 fois 20. Ce sont les taïnes qui ont la vue la plus perçante et qui tiennent les miradors en général. Les humes forment des patrouilles le long de la clôture extérieure, avec des armes, j'entends, de dur calibre. Sur le pont supérieur, on trouve Prentis, le maître, et Finley Otego, le chef de la sécurité, respectivement Hume et Taïne. Mais la plupart des flottants sont des cantois, des ignobles, vous comprenez? La majorité des ignobles ne s'entendent pas avec les briseurs. À la rigueur, un brin de camaraderie virile, mais c'est le maximum. Dinky m'a dit un jour qu'ils sont jaloux de nous car nous sommes ce qu'ils appellent des humes infinis. Tout comme les gardes humes, les cantois portent des bonnets de pensée quand ils sont en service pour que nous ne puissions pas les proguer. Le fait est que bon nombre de briseurs n'ont jamais essayé de proguer qui ou quoi que ce soit hormis le rayon au cours de ces dernières années. Et peut-être ne peuvent-ils plus rien faire d'autre. L'esprit est aussi un muscle, et comme tous les muscles, il s'atrophie si on ne s'en sert pas.
Une pause. Un déclic sur la bande, puis la voix de nouveau.
Je ne vais pas pouvoir terminer. Je suis déçu, mais pas vraiment surpris. Ceci sera donc ma dernière histoire, les amis. Je suis désolé.
Un bruit grave, liquide, Susanna l'aurait juré. Ted reprenait une gorgée d'eau.
« Vous ai-je déjà dit que les taïnes n'ont pas besoin de bonnets de pensée? Ils parlent parfaitement le français, et j'ai pu constater que certains avaient quelques capacités à proguer eux-mêmes, qu'ils pouvaient envoyer et recevoir, au moins un petit peu, mais si on creuse un peu... On ne trouve que ces ondes de brouillage stridentes qui ressemblent à des interférences mentales, du bruit blanc. Je pensais que c'était un mécanisme de protection. Dinky pense que c'est leur manière de penser. Quoi qu'il en soit, ça leur facilite la tâche. Ils n'ont pas à se rappeler sans cesse de mettre leur chapeau le matin avant de sortir. Trampas était l'un des cantois vagabonds. Vous le croiserez peut-être un jour en train de sillonner les rues de Pleasantville, ou bien assis sur l'un des bancs qui bordent l'allée, en train de lire un livre d'épanouissement personnel du genre « La pensée positive en 7 leçons ». Puis le lendemain, vous le trouverez là, appuyé contre le mur de la maison des cœurs brisés, à prendre le soleil. Il en va de même avec les autres cantois flottants. S'il y a une stratégie derrière tout ça, je n'ai jamais pu la percer à jour, et Dinky non plus. On ne pense pas qu'il y en ait une. Ce qui a toujours distingué Trampas des autres, c'est cette absence totale de jalousie. Il est réellement amical, ou il l'était. Par bien des aspects, il ne ressemblait pas du tout à un ignoble. Peu de ses collègues cantois ont l'air de l'apprécier, ce qui est plutôt ironique parce que si la dévenance existe bien, alors Trampas est l'un des rares à en avoir fait quelque chose. Le simple fait de rire, par exemple. Quand la plupart des ignobles rient, on dirait une volée de cailloux dévalant une goulotte à charbon métallique. Ça vous frissonne de partout, comme dirait Tania. Quand Trampas rit, lui, c'est un peu haut perché, mais il fait un bruit normal. Parce qu'il rit vraiment, je pense, instinctivement, alors que les autres se forcent. Quoi qu'il en soit, un jour j'ai entamé une conversation avec lui. Dans la rue principale, à la sortie du bijou. C'était la énième rediffusion de La Guerre des Étoiles. S'il y a un film dont les cantois ne se lassent jamais, c'est bien La Guerre des Étoiles. Je lui ai demandé s'il savait d'où venait son nom. Il m'a dit que oui, bien sûr, qu'il venait de son clan femme. Chaque cantois reçoit un nom hume de son clan femme, tôt ou tard. C'est comme un gage de maturité. Dinky dit qu'il récolte ce nom-là la première fois qu'ils arrivent à se faire prendre par derrière avec succès. Mais ça, c'est du Dinky tout craché. La vérité, c'est que nous ne savons pas et que ça n'a pas d'importance. Mais certains de ces noms sont carrément hilarants. On a ce type qui ressemble à Rondo Hatton, un acteur des années 30 qui souffrait d'acromégalie et qui jouait les monstres et les psychopathes. Mais ils l'ont appelé Mini-Pouce. Et puis il y en a un qui s'appelle Loup-Garou et un autre Van Gogh Bez.
Susanna, qui était une vieille adepte de la musique folk de Bleecker Street, se plongea la tête dans les mains pour étouffer un accès de fou rire.
Bref, je lui ai dit que Trampas était un personnage d'un célèbre western intitulé Le Virginien. Un second couteau dans l'ombre du héros, mais c'est Trampas qui a la réplique tirée du livre, que tout le monde se rappelle. Souris en disant ça. Ça a fait rire notre Trampas et j'ai fini par lui raconter toute l'intrigue autour d'un café. Nous sommes devenus amis. Je le tenais au courant de ce qui se passait dans notre petite communauté de briseurs, en échange de quoi il me racontait toutes sortes de petites choses innocentes, mais intéressantes, sur ce qui se passait de son côté de la clôture. Il se plaignait aussi de son eczéma qui lui mettait le crâne à la torture. Il n'arrêtait pas de soulever son chapeau, un genre de petit béret, mais en jean, pour se gratter le cuir chevelu. Il déclarait que c'était le pire emplacement possible, pire qu'en bas, sur le petit caporal. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il soulevait son chapeau pour se gratter, je pouvais lire dans ses pensées, pas seulement celles du dessus, mais toutes. En faisant vite, et j'avais appris la rapidité, je pouvais faire mon choix exactement comme j'aurais choisi un article dans une encyclopédie en tournant les pages. Enfin, ça n'était pas exactement la même chose. C'était plutôt comme allumer et éteindre un transistor en pleine diffusion d'une nouvelle émission.
Bordel !
S'exclama Eddie en reprenant un biscuit. Il aurait donné un bras pour un peu de lait dans lequel le tremper. Les biscuits sans lait, c'était comme des Oreos sans le fourrage blanc au milieu.
Imaginez que vous allumez une télé ou une radio à fond,
reprit Ted de sa voix rouillée et épuisée.
Puis que vous l'éteignez, à toute vitesse.
Il avait fait exprès d'accélérer le débit, ce qui fit sourire tout le monde, y compris Roland.
Ça vous donnera une idée de l'effet produit. Maintenant, je vais vous dire ce que ça m'a appris. Je soupçonne que vous le savez déjà, mais je ne peux pas courir le risque que vous l'ignoriez. C'est trop important. Il existe une tour, mesdames et messieurs, comme vous le savez forcément. Il fut un temps où six rayons s'y croisaient, à la fois pour épuiser leur puissance, c'est une source de pouvoir absolument prodigieuse, et pour lui prêter main forte comme des câbles avec un émetteur radio. Quatre de ces rayons ont désormais disparu, très récemment, pour le quatrième. Les deux seuls restants sont le rayon de l'ours, voix de la tortue, le rayon de Chardic, et le rayon de l'éléphant, voix du loup, celui que d'aucuns appellent le rayon de Gan. Je me demande si vous pouvez imaginer l'horreur que j'ai ressentie en constatant ce que je faisais réellement au bureau, en grattant innocemment ce petit point qui me démangeait. Même si tout le long je savais que c'était quelque chose d'important, je le savais. Et il y avait pire encore, une chose que je n'avais pas soupçonnée, une chose qui ne s'appliquait qu'à moi. Je savais que je n'étais pas comme les autres par certains aspects. Pour commencer, j'étais le seul briseur capable de ressentir une once de compassion. Quand ils voient tout en rouge, je vous l'ai dit, c'est moi qu'ils viennent trouver. Pimli Prentice, le maître, a marié Tania et Joey Rastosovitch. Il a insisté. Il ne voulait pas entendre une seule objection. Il répétait sans cesse que c'était là son privilège et sa responsabilité, qu'il était comme le capitaine d'un vieux navire de croisière. Et bien sûr, ils l'ont laissé faire. Mais après ça, ils sont venus dans mes appartements pour me dire « Marie-nous, toi ». Alors seulement on sera vraiment mariés. Et il m'arrive de me demander, tu croyais réellement que c'était tout ce qu'on attendait de toi, avant de fréquenter Trampas et d'écouter chaque fois qu'il soulève son chapeau pour se gratter, tu croyais vraiment que ce qui te différenciait des autres, c'était de ressentir dans ton âme un peu de compassion et d'amour? Ou alors est-ce que, pour ça aussi, tu te racontais des histoires? Je ne saurais pas répondre avec certitude à cette question. Mais peut-être suis-je innocent dans ce cas précis. Je ne comprenais vraiment pas que mon talent allait bien au-delà de celui de proguer et de briser. Je suis comme un micro pour un chanteur, ou un stéroïde pour un muscle. Je les dope. Disons qu'il existe une unité de force, appelons-la sombre, si vous le voulez bien. Au bureau, à 20 ou 30, mettons qu'il soit capable de produire 50 sombres par heure, sans moi. Et avec moi, ça saute à 500 sombres à l'heure, et ça saute instantanément. En écoutant les pensées de Trampas, j'ai compris qu'il me considérait comme la prise du siècle. Peut-être même de tous les temps, le seul briseur réellement indispensable. Je les avais déjà aidés à faire lâcher un rayon, et je leur faisais gagner des siècles sur celui de Chardic. Et quand le rayon de Chardic lâchera, mesdames et messieurs, celui de Gan n'en aura plus pour très longtemps.
Et quand le rayon de Gan lâchera lui aussi, la tour sombre s'écroulera, ce sera la fin de la création, et l'œil de l'existence même deviendra aveugle. Je ne sais pas comment j'ai réussi à empêcher Trampas de voir ma détresse, et j'ai des raisons de croire que je ne me suis pas montré aussi impénétrable que je le croyais à l'époque. Je savais qu'il fallait que je sorte de là, et c'est alors que Chimmy est venu me trouver pour la première fois. Je suis persuadé qu'il m'avait percé à jour dès le début, mais même maintenant, je ne peux en être certain, et Dinky non plus. Tout ce que je sais, c'est qu'un soir il est venu chez moi et m'a envoyé cette pensée. « Je vous ferai un trou, Sai. » si vous le voulez, et vous pourrez leur tirer votre révérence. » Je lui ai demandé ce qu'il entendait par là, et il s'est contenté de me regarder. C'est fou ce qu'un simple regard peut dire, n'est-ce pas? Ne faites pas injure à mon intelligence. Ne me faites pas perdre mon temps, ne gaspillez pas la vôtre. Je n'ai pas lu ça en pensée, pas du tout. C'est sur son visage que je l'ai lu. »
Roland émit un grognement d'approbation. Ses yeux brillants étaient fixés sur les rouleaux mouvants de la cassette.
« Je lui ai quand même demandé où mènerait le trou. Il a répondu qu'il ne savait pas, qu'il fallait que j'accepte de prendre le risque. Mais même avec cette condition, je n'y ai pas réfléchi très longtemps. Si je tardais à me décider, j'avais peur de trouver des raisons de rester. Je lui ai dit, « Vas-y, Chimmy, aide-moi à leur tirer ma révérence. » Il a fermé les yeux en se concentrant et instantanément un coin de ma chambre a disparu. Je voyais les voitures passer. Elles étaient déformées, mais c'était bien des voitures américaines. Je n'ai plus posé de questions, j'ai foncé. Je n'étais pas certain que je pourrais passer complètement dans cet autre monde, mais j'en étais arrivé à un point où je me fichais même de ça. Je me disais que mourir était peut-être la meilleure chose que j'avais à faire. Ça les ralentirait, au moins. Et juste avant que je plonge, Chimmy m'a envoyé cette pensée. « Cherchez mon ami Will Dearborn. Son vrai nom est Roland. Ses amis sont morts, mais je sais que lui non, parce que je l'entends encore. C'est un pistolero et il s'est fait de nouveaux amis. Amenez-les ici et ils s'arrangeront pour que ces méchants arrêtent de faire du mal au rayon, exactement comme il a empêché Jonas et ses amis de me tuer. » Pour Chimmy, ça équivalait à un véritable sermon fleuve. J'ai fermé les yeux et j'ai plongé. Pendant une seconde, je me suis senti la tête en bas, mais rien de plus. Pas de carillon, pas de nausée. Très agréable, du moins en comparaison de la porte de Santa Mira. Je me suis retrouvé à quatre pattes au bord d'une autoroute très fréquentée. Il y avait un vieux journal dans les herbes du bas-côté. Je l'ai ramassé et j'ai vu que j'avais atterri au mois d'avril 1960, presque 5 ans après que Armitage et ses amis nous avaient menés à l'abattoir à Santa Mira, de l'autre côté du pays. J'avais les yeux posés sur le courant d'Hartford. Et cette autoroute, c'était la bretelle de mérite.
« Chimmy sait faire des portes magiques !» s'exclama Roland. Il nettoyait son revolver tout en écoutant le récit de Brötigan, mais il le mit soudain de côté. « C'est ça la téléportation. C'est ça que ça veut dire. Chut, Roland !» conseilla Susanna.
« Ça doit être sa fameuse aventure du Connecticut. Je veux entendre cette partie-là. »